con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Bonjour et bienvenue à cette dernière livraison de À l'air livre avant l'été. Aujourd'hui, je reçois Madison Smart Bell, écrivain américain né en 1957. Il a grandi dans une ferme du comté de Williamson, au Tennessee. Diplômé de Princeton et de la Holly University, en Virginie, il passe plusieurs années entre New York et Londres avant de s'installer à Baltimore, où il vit désormais avec sa femme Elizabeth Spears, poète, et sa fille. Comme plusieurs grands auteurs de son pays, il participe à de nombreux programmes de creative writing, des ateliers d'écriture dans le cadre de programmes universitaires, et enseigne actuellement l'anglais. Critique littéraire, il publie aussi régulièrement des chroniques dans différents magazines américains de référence, tels que Harper's, le New York Review of Books et le New York Times Book Review. Il est aujourd'hui connu et traduit aussi bien au Japon qu'au Brésil, en Espagne et bien sûr en France. Finaliste en 1995 du National Book Award, prestigieux prix littéraire aux États-Unis, son roman Le Soulèvement des âmes a remporté l'année suivante le Anfield World Award du meilleur livre de fiction de l'année. Cet ouvrage, premier volet d'une trilogie historique sur Haïti, était son 8e roman. Tous ne sont pas encore traduits en France, mais on peut lire la plupart de ses livres chez Actes Sud, dont Save Me Joe Louis, Coupe sombre, La nuit du silence, 10 Indiens par exemple. Des romans plutôt urbains et contemporains, parfois même dans une veine polar comme Coupe sombre. On doit découvrir surtout la très ample série autour de la révolution haïtienne et Toussaint l'ouverture, Le soulèvement des âmes, Le maître des carrefours, La pierre du bâtisseur, trois gros livres qui font une saga assez importante et très lyrique autour de cette révolution haïtienne. Et elle est complétée par un essai, Toussaint l'ouverture, paru également chez Actes Sud. Tous ces livres sont traduits par Pierre Girard. Le dernier, aujourd'hui, qui vient de paraître, La balade de Jesse W., va être l'objet d'une partie de cet entretien. Nous retrouvons Madison Smart Bell à Saint-Malo pour l'édition du festival Eton Voyageurs 2009 en face de la mer.
Ruego en la boca y un ruego en el alma.
Bonjour Madison.
Bonjour Pascal.
Nous sommes à Saint-Malo, sous les remparts de Saint-Malo, face au large, face au grand B et au petit B. Il y a un petit peu de vent, mais je crois que pour une fois, ce n'est pas gênant. J'ai l'habitude, on me le reproche tout le temps, de faire des enregistrements où deux fois sur trois, on n'entend rien à cause du vent.
Oui, mais pour Saint-Malo, il n'y a rien comme vent. Quand il souffle ici, c'est beaucoup plus fort que ça.
Alors, ce qui souffle ici, c'est le vent, c'est aussi, en ce moment, le souffle de la littérature,
ah, oui,
une expression qu'on utilise beaucoup pour Étonnant Voyageur, où tu es invité.
Oui, c'est ça. Donc, c'est le 20 ans des Étonnant Voyageur. Dernière fois que j'ai fait la fête, c'était à 05 à Port-au-Prince, Haïti.
Oui, parce que tu as aussi participé aux manifestations étonnant voyageurs qui se déroulent à l'étranger, donc Haïti en particulier.
Oui, non, ça c'était la salle à l'étranger que j'ai fait. Mais je crois que c'est peut-être ma 4e visite à Saint-Malo. Mmh. Donc j'ai eu la chance parce que c'est une bonne rencontre, c'est une belle ville.
Mmh. Et tu es en train de flâner aujourd'hui avec moi sur les remparts et en
oui,
parlant.
C'est bien.
Entre deux rencontres et deux entretiens, deux cafés littéraires.
Oui, quelque chose comme ça. J'ai pas encore vraiment étudié le programme de la journée parce que ça fait peur, mais.
Il y a beaucoup de choses.
Alors, on prend les choses une par une. Ouais.
On t'a invité ici à Saint-Malo à l'occasion de ce dernier livre, La balade de Jesse. Qui est publié chez Actes Sud. On va pas forcément rester que sur ce livre, mais moi, ce qui me frappe avec ce livre, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui ont l'air de le découvrir comme un aspect inédit de Madison Smart Bell, parce que on t'a connu récemment pour ton intérêt sur Haïti, pour tes livres sur Toussaint l'ouverture, et ça surprend un certain nombre de gens qui ne connaissent finalement que cette partie-là de ton œuvre.
de voir que tu écris d'autres choses, plus contemporaines, plus urbaines, urbaines pas forcément que pour celui-là uniquement, mais et moi ça m'étonne pas parce qu'en fait on retrouve une partie des livres que moi je connaissais avant, qui étaient déjà traduits chez Actes Sud. Est-ce que pour toi c'est une vraie différence? Est-ce que tout ça est en continu?
Bon, il y a la nature du départ, c'est comme ça. Les autres romans, disons urbains, que j'ai écrit quand j'étais assez jeune. J'avais moins de 30 ans pour la plupart. Et donc pour celui-ci, quand je l'ai commencé, je crois que j'avais plus de 45 ans probablement. Ouais. Mais ça, l'héros, je veux pas dire l'héros, le protagoniste, ce jeune-ci, il n'a que 19 ans, 20 ans comme ça. Ouais. Et donc, j'ai pas songé à tout ça consciemment parce que c'était juste que cet personnage et son histoire un jour me sautait dans l'esprit. Mais après, j'ai remarqué que bien, c'est une espèce de regard en arrière. Mmh.
C'est une mise au point un petit peu?
Oui, peut-être.
Ouais.
Non, c'est juste. C'est une histoire qui demande un personnage très jeune parce que. Qui n'a pas encore rien de mauvais sur ça, mais qui n'a pas encore une vie stable. Mmh. Mmh. C'est là l'idée. Hein. Un petit zigane au début de sa vie.
Oui, tout est possible encore.
Oui, tout est possible. Ouais.
C'est quelque chose qui te fascine, ça, cette idée que tout est possible, ce chemin que tu prends avec un carrefour, et là je pense évidemment à ce maître des carrefours, que tu peux prendre dans n'importe quelle direction encore, rien n'est fixé.
Non, c'est une bonne idée. C'est une espèce de fantasme aux États-Unis, je crois. Une route qui n'a pas une fin, qui n'a pas de termination. Dans les colloques ici, c'est... L'idée de road story est proposée, je crois, plus qu'une seule fois. ça ne m'intéresse pas directement, l'idée de road story. J'avais le même... quand j'étais à l'école, à l'âge de 11 ans, dans les cours de mathématiques, je faisais le même dessin que tous les autres. C'est un truc qui montre en perspective mal fait la route qui disparaît vers l'horizon.
Ouais.
Donc, tout garçon fait ça, je crois. Mais à la fin, c'est un peu infantile, à mon avis. Mais quand même, ce roman raconte ce Jesse a peut-être l'impression qu'il va dans une ligne, mais effectivement, c'est un cercle.
Un cercle, oui.
Parce que, du sens très banal, il fait partie d'un groupe musical qui fait chaque an un tournée. À la poursuite de l'été perpétuel, donc pour l'hiver c'est Floride, pendant l'été Nouvelle-Angleterre, ils jouent des petites boîtes à côté des routes et comme ça, et donc ils cessent pas de voyager, mais effectivement il n'y a pas de progrès.
Oui. Ça tourne en rond, c'est une tournée.
Oui, c'est ça.
C'est toujours la même tournée.
Ouais.
Et il n'avance pas jusqu'à ce quand même que ce Jesse commence à faire d'autres choses plus personnelles, à intégrer dans le groupe une chanteuse qu'il découvre par hasard, et puis à interpréter différemment, à composer. Là, les choses changent quand même.
Oui, donc dans un moment, il faut qu'il y aura quelque chose qui ressemble à changement, au moins. C'est rare. Il existe des romans Je peux m'en rappeler d'un seulement où vraiment rien ne change. Rien ne se change pas du tout. C'est un truc de Bruce Chatwin qui s'appelle en anglais On the Black Hill. Sur la colline noire, je sais pas. Donc c'est impressionnant parce que c'est presque impossible de faire une trame sans mouvement.
C'est un pari pour un romancier.
Mais pour ce roman, j'étais en plein milieu de faire quelque chose de beaucoup plus grand. C'était le deuxième volet de cette trilogie sur la révolution haïtienne. Donc, juste pour m'amuser un peu, j'ai commencé un roman sans structure. Donc, et ça a commencé avec une rêve que j'ai eue. Donc, j'ai fait une nouvelle et après ça, j'ai vu que ça peut aller un peu plus loin. Mais vraiment sans une carte. Juste l'idée que... Et ça existe en réalité, des petits groupes comme ça qui voyagent selon les saisons. Et je connais même des gens qui font ça. Donc, au-delà de ça, il n'y avait rien comme structure. C'était vraiment une randonnée.
Oui. Ah oui, c'est pas la même chose, une randonnée et puis... Alors, road story, quand même, ça a un petit côté road story, effectivement, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose de cyclique, c'est un cercle. On revient à la fin sur, finalement, le passé de Jesse, sur ce qu'il a constitué. C'est une sorte de retour en arrière aussi. Pas de retour en arrière, mais... parce qu'il redépare, il y a un redémarrage à partir de ça. Mais... ce chemin aussi vers le passé, vers la recherche de son père, des origines de sa mère.
Non, je lui ai donné un passé très très malheureux. Et aujourd'hui, je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais le premier chapitre était fait rapidement, dans deux jours comme
ça.
Oui.
C'est le rêve dont tu parles.
Comment dire, le rêve, c'est très simple. C'est un truc... que j'ai eu à l'époque parce que je suis un guitariste minable, mais je suis fanatique de Neil Young depuis longtemps. Donc Neil Young, après la mort, la suicide, disons, de Kurt Cobain, a fait sortir un disque qui avait quelque chose à voir avec ça, donc parce que c'était quelque chose de Neil Young, je l'ai acheté. Il me semblait qu'il me fallait savoir quelque chose enfin sur Nirvana, que je n'ai pas écouté Nirvana. Donc j'ai acheté le deuxième album, je crois, qui était au moment le plus populaire. Et d'abord, je le trouvais moche, mais après, j'ai trouvé deux chansons qui me plaisaient. Donc, j'ai commencé à les apprendre par oreille, à l'oreille, et voilà que c'était presque impossible. Donc j'ai dit, c'est bien plus complexe que j'ai reconnu. J'étais obligé à acheter ce que j'ai fait réellement, un livret de la musique pour mieux comprendre. C'était à ce point-là, j'avais une bête rêve. Bon, c'était très court. Dans ma tête sommeil, monsieur lui-même, Kurt Cobain, qui m'enseignait à jouer une chanson qui s'appelle Lithium. Alors, à la réveil, j'ai noté ça. Et puis rapidement, dans 48 heures comme ça, j'ai fait une nouvelle. Mais toutes les graines de la trame du roman était dans le niveau, y compris l'histoire que Jesse était abandonné par sa mère pratiquement dès sa naissance, et après ça maltraité et battu par son père. Et donc tout ça se trouve dans le premier chapitre que j'ai fait comme nouvelle, je l'ai même publié comme ça. Donc après, c'était juste tirer un peu ses filets.
Tu disais que tu es un guitariste médiocre, hein. Du minable même. Je ne sais pas, je ne t'ai jamais entendu, mais on pourra t'entendre tout à l'heure peut-être en écoutant un morceau. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la musique s'est intégrée dans ce roman. Parce qu'il me semble que tes livres ont toujours une sorte de musique sous-jacente, comme ça. Il y a du rythme, il y a des thématiques qui font référence à quelque chose de musical, à l'écoute, à la transformation par la musique. Mais là, la musique, elle est vraiment présente. Elle est là de manière physique, avec les concerts, avec Jesse qui apprend à composer, qui essaye des morceaux. C'est la première fois que tu intègres comme ça la musique.
Par contre, la musique a été toujours au moins un peu présent dans chacun de mes œuvres, mais dans celui-ci, il y a beaucoup de parlance plus ou moins technique sur la musique, parce que c'est un problème parfois pour Jesse apprendre une chose, bien se mettre en accord avec les autres. Il parle beaucoup de ses goûts et de ses ambitions, mais toute une base. Il y a tout, n'importe quel métier, il y a un vocabulaire, un discours, ouais, disons, qui est précisé pour le métier. Donc, dans le roman, il y a beaucoup de ça, peut-être même trop. Mais, à vrai dire, j'étais musicien amateur depuis l'âge de 11 ans, comme ça.
11 ans?
Oui. Mmh. Non, je sors de Nashville, ou bien de tout près de Nashville, donc les proverbes racontent, chacun joue au moins un peu de guitare. Moi, j'ai joué un peu de banjo quand j'étais au lycée. Mais à vrai dire, l'écriture était toujours facile pour moi. Donc, j'ai toujours fait ça sans peine, ouais, du tout. Ce qui est rare, j'entends. Mais dans l'écriture, j'étais très rarement obligé à souffrir. Mais j'ai appris la musique toujours assez mal. Et avec des grosses difficultés. Donc, ça m'a donné l'expérience de l'échec.
Oui.
Et ouais, l'expérience de l'échec, c'est très instructionnel.
Oui. C'est plus instructif que quand ça marche trop facilement.
Oui.
Pour toi, c'était,
ouais,
important d'avoir cette,
ouais,
cette douleur de faire quelque chose.
Donc ça tombe dans la trame du livre, ouais, un tout petit, ouais, peu.
C'est vrai qu'on on sent cette difficulté qu'a Jesse, mais en même temps, il a une certaine confiance en lui. Au bout d'un moment,
ça va bien. Parce que, philosophiquement, il n'a pas la conscience de ça, bien entendu. Mais à son âge, avec sa passé qui était très difficile, il n'a pas une identité très stable. Comme il est jeune et beau, il joue dans un groupe dans les boîtes un peu louches. Il a eu l'occasion de faire l'acte d'amour, disons, à chaque reprise, plus ou moins, dans les tournées. Donc, il a beaucoup de l'expérience des actions sexuelles, mais rien de l'amour, il sait presque rien. Son mère, tout ça. Donc, c'est juste ses amis qui sont tous des garçons, sauf la chanteuse, qui a plus ou moins l'âge de sa mère.
Ouais. Donc, tu tombes plus ou moins amoureux aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est un peu complexe, ça, parce que il y a des femmes qui existent en réalité. On les regarde, on dit, est-ce qu'elle a 30 ans ou bien 60, on ne sait pas. Normalement des belles. Et donc, Donc, il est dans la confusion un peu avec ça. Effectivement, il prend un petit béguin pour elle, mais sans savoir qu'elle est ben, beaucoup plus vieille qu'il croit.
Ouais.
Et qu'en même temps, elle a une alliance plus ou moins secrète avec son père.
Alors, on va pas beaucoup en dire plus, parce que je pense que c'est bien qu'on le découvre aussi. Mais pour revenir un petit peu à cette manière que tu as d'introduire la musique dans le texte, tu disais tout à l'heure que c'était assez technique. En même temps, je pense que pour un lecteur qui ne connaît pas forcément la technique, les choses passent vraiment de façon très compréhensible. Et moi, ça me fascine assez de voir ce processus de création que tu mets en œuvre, que tu décris pour la musique. Mais du coup, évidemment, je pense à la manière dont ça se passe pour l'écriture. Est-ce que pour toi, il y a des choses qui sont, dans ce que tu décris dans le processus de création, qui sont similaires entre cette approche de la musique et l'écriture?
Oui, mais non. Mais, comment commencer dans ce sujet? Et c'est plutôt pour moi, parce que moi, j'écris pour les oreilles et pas pour l'œil.
Ouais.
J'ai toujours fait ça, c'est mon réflexe. Mais tout ça, je fais, comme j'ai dit, sans peine et inconsciemment. Donc il y a un processus assez conscient qui est raconté dans le roman d'apprendre des chansons et enfin les composer.
Oui.
Donc à l'époque j'ai une vieille amie forte amie depuis la fac qui s'appelle Wynn Cooper. Mm-hmm. Qui est poète et pas des hasards assez bizarres, et il s'est subitement trouvé écrivain des chansons parce que une de ses poèmes a été pris pour une chanson de Sheryl Crow aux États-Unis dans le premier album, et c'était le premier tube, c'est un mot qu'on peut utiliser.
Oui, on comprend le premier
d'accord.
Tube.
Moi non, mais juste faire l'essai de ce mot pour savoir comment ça marche. Non, donc, non mais c'était énorme. Pendant 2-3 ans, si on avait une radio, c'était impossible à. On l'entendait au moins deux fois par jour.
Ah oui.
Et donc, il était dans le carrière, mais après un 10 ans, il est un peu brisé avec les autres dans ce groupe. Il y avait des problèmes qui se passent assez souvent quand on a dans une groupe comme ça une succès grand et ouais. Subit. C'est un choc, c'est positif, mais c'est un grand choc. Okay. Et donc, une fois, moi, je faisais ce roman sans structure, etc., juste, et je faisais un chapitre de ça, puis un chapitre de Maître des Carrefours, et j'en avais sept de Ballade de Jesse. J'ai reçu un coup de fil de mon ami qui se plaignait, effectivement, parce que il a perdu ses associations avec des autres musiciens.
Oui.
Et donc, j'avais une idée qui me semblait très brillante. Alors, écoute, je t'envoie un manuscrit. Et toi, tu vas écrire des chansons. Mais il connaît pas la musique partout. Il écoute. Il a une bonne oreille. Oui. Mais jouer, composer, il sait rien de ça. Donc, c'est juste les mots. Bon, je dis juste les mots. C'est les mots qui sont importants. Mais et donc, on a commencé comme ça. Et j'achevais le roman avec les mots de chanson qu'il m'a fourni, comme c'était écrit par les personnages. Voilà.
Oui.
Et puis, parce que l'idée de ma carrière à ce point-là, c'était de faire une volée de trilogie haïtienne et puis quelque chose un peu moins imposante. Et donc, dans cette chronologie, j'ai laissé ce petit roman dans une tiroir pendant peut-être 3 ans. Donc, comme ça, par hasard, encore une fois, on a eu du temps pour que je faisais... pour que je pouvais mettre tous les mois quelques musiques, à faire des petites bandes par-ci, par-là, avec des chanteurs anglais et des chanteuses, parce que beaucoup des chansons sont conçues pour femmes, pour chanteuses, voilà. Donc, fin des comptes, on avait une douzaine des bandes.
Ça commence à faire pas mal.
Oui. Donc, c'était une collaboration. Et ça a commencé comme ça. Donc,
c'est un livre écrit à deux, finalement. Presque.
Mais il n'y avait rien à voir avec le tram, mais pour les chansons qui se trouvent là-dedans. Et ce que vous venez de dire sur le processus de composition et tout ça, ça était vraiment collaboratif.
Alors, ce que je propose, c'est que, avant que nous on se déplace ici à Saint-Malo, d'entendre une des chansons composées par Wynne Cooper pour les paroles, Madison Smartwell pour la musique. Laquelle est-ce qu'on pourrait écouter que tu aurais envie de faire entendre aux auditeurs français à Marseille?
Laissez-moi en réfléchir un petit moment, mais à vrai dire, à la fin de l'histoire, parce que j'ai achevé le roman, mais on continuait d'écrire des chansons. Ça, il y avait une autre moteur qui s'allumait, et plus tard, bizarrement pour un amateur comme moi, j'étais invité à faire une CD correctement avec une toute petite compagnie de disques qui consistait effectivement d'une seule personne, mais à l'époque je savais pas ça. Mais quand même, il y avait de quoi financer un bon producteur, des musiciens que j'aurais eu la chance juste pour les saluer, peut-être serrer la main, mais jouer avec, c'était une rêve incroyable. Et donc, on a fait pas mal, mais il y en a peut-être 4-5 chansons qui se trouvent dans le roman. Donc,
et qu'on trouve sur ce disque, donc.
Oui. Qui est sur le premier album Bell & Cooper, maintenant, il en a deux. Mais je dirais soit On 8 Mile ou bien Too Late.
Too Late.
Oui. Donc, Too Late, c'était conçu pour femme, mais à la fin, c'était moi qui étais obligé à la chanter. Mais à vrai dire, je l'ai écrit musicalement pour Bonnie Raitt. Donc, si par hasard elle est à l'écoute de cette émission, ben, ça serait bon.
Et bon, on va écouter Too Late alors. À tout à l'heure.
Stopping by a river to
watch the sky complaining. I could have been a preacher in a church with a tall white steeple. I could have been a lot of things to a whole lot of people. I know it's too late now. Too late now to change a thing. Step me up to that microphone.
À l'air libre, Pascal Jourdana.
Madison Smart Bell.
Voilà, on est reparti. Donc, on a arrêté sur un riz, on recommence sur un riz, c'est normal. On a entendu Too Late, qu'on peut trouver sur un album.
Qui s'appelle en anglais 40 Words for Fear. Et bon, il faut rechercher ça sur l'internet, c'est disponible sur iTunes, etc. Avec les mots anglais, mais ça se traduit en français comme 40 mots pour la peur.
40
donc
mots
ça dirait une film d'horreur, mais c'est pas comme ça.
Alors tiens, comment est-ce qu'on pourrait traduire le nom de ce groupe qui n'est pas traduit dans le sous-titre de ce roman, Anything Goes?
Ça, c'est une histoire un peu tordue parce que, grâce à Dieu, j'ai une traducteur qui est vraiment ingénieuse.
C'est Pierre Girard qui est
c'est Pierre Girard.
Oui.
Mais il avait du mal avec la musique parce que toutes les choses techniques. Non, il m'a dit ça, qu'il était un peu inquiété de ne pas parfaitement comprendre tous les technique musicale, patati patata, mais à la fin il a très bien fait. Mais pour le titre, Donc, le groupe lui-même s'appelle en anglais Anything Goes. Et Pierre a justement traduit ça comme tout va.
Tout va.
Oui, tout va. Et donc, on trouve ça dans le texte comme nom du groupe. Mais pour le titre, cette phrase était jugée comme intraduisable. Et donc, parce que ça veut dire en même temps, tous les coups sont permis et à la fois tout baigne.
Tout baigne.
Et donc, et donc apparemment, on ne peut pas avoir les deux à la fois en français.
Ah, en français,
donc,
non.
Donc, on était répartis pour trouver un titre dans 100% dans un autre sens.
C'est intéressant ce paradoxe d'un titre, d'un nom de groupe et d'un roman du coup original aussi pour arriver à comprendre que les deux en même temps sont possibles dans certains cas, que à la fois on peut avoir l'impression que tout va bien et que en même temps tous les coups, tous les sales coups donc sont possibles, que tout peut aller mal.
Non, non, mais bizarrement, ça doit être une différence culturelle entre la France et les États-Unis, ou bien peut-être, mais non, c'est américain, le concept. Mais l'autre traduction, c'est n'importe quoi. Moi, c'est quoi j'ai proposé comme titre, n'importe quoi.
N'importe quoi.
et c'est un peu comme ça, vraiment.
Oui.
On verra.
tu disais tout à l'heure que c'était un peu un divertissement pour toi, ce livre. Est-ce que tu es sorti secoué, de transformé de cette vaste trilogie sur la révolution haïtienne?
Ah, j'ai sorti épuisé, non. Mais j'ai fait ce roman avant de... J'étais dans le 10e volet.
Oui, tu étais dedans.
J'étais en plein milieu. Mais à la fin de Tous les Toits... J'ai même déclaré que j'écris plus de des romans.
Ah oui,
je vais écrire, mais quelque chose d'autre.
Tellement tu étais...
Non, c'est fatigant, c'était 20 ans. Et puis, avec, à l'époque, ça a maintenant un peu changé pour le mieux, mais... En ce moment, j'avais un peu de l'esprit de bon, je vais lâcher avant que je sois licencié. donc c'était un peu comme ça. Oui. Donc, mais il me faut écrire quelque chose. Donc j'ai proposé des livres cuisine, des autres trucs de non-fiction. Enfin, c'était mon éditeur qui a fait une douce approche à mon agent littéraire avec la question. Est-ce que vous croyez, madame, ça serait possible d'engager ce monsieur d'écrire un roman? Elle m'a rapporté ça, donc. Oui, s'il veut ça, oui, c'est faisable. Donc j'ai recommencé comme romancier, comme ça.
Ouais.
Mais après une pause de peut-être 2 ans.
Ouais. Je repense à ce qu'on s'était dit quand on s'était rencontrés pour cette trilogie, au fait que tu avais l'impression à certains moments d'être un noir dans la peau d'un blanc, d'être quelqu'un qui arrivait par la transe des choses que tu avais vécues à vivre réellement des choses complètement différentes de toi, à être complètement autre et en même temps te retrouver d'une certaine manière. Je me demande si c'est quelque chose qui marque l'ensemble de ton œuvre, parce que là aussi il y a ce personnage Jesse, c'est quelqu'un qui a des origines obscures, qui est un sang mêlé, qui est par la musique qui devient autre aussi d'une certaine manière. Est-ce que ça c'est une thématique qui est forte?
C'est une longue question. Je vais commencer avec le début, si je m'en souviens. Laissons-nous voir. Non, mais moi, à différence de quelques autres auteurs, je ne trouve pas ma propre vie de grand intérêt juste pour vivre, mais comme sujet, non. Ce qui m'intéresse pour écrire, c'est la vie des autres.
Oui.
Le plus différent que moi que possible. Et donc, maintenant, deuxième étape de la question était quoi?
C'est vrai que c'est une question à plusieurs étages, mais je fais souvent ça, c'est pas grave. alors déjà, donc, se sentir noir dans la peau d'un blanc.
Ah oui, c'est ça. Le plus différent que moi que possible. Ouais. Donc, j'ai une fois fait une nouvelle point de vue d'une naine. Je ne suis pas naine, moi. Mais l'expérience m'intéressait. c'est juste... Et je crois que c'est un point de vue théorique, philosophe. C'est une très bonne chose à faire. C'est essayer de comprendre un peu l'expérience des autres. Donc, ça, pour moi, c'est... C'est la chose la plus utile qu'un romancier peut faire.
Oui. Après, c'était pour poursuivre cette question, la question de ce qui constitue l'identité d'un être et d'un personnage. Et donc là, c'est Jesse qui découvre que son origine par sa mère, quand il connaît le nom de sa mère, est très obscure. Est très mélangée et très lointaine.
Oui, bizarrement maintenant, c'est un peu comme notre président courant, Monsieur Obama, qui a vraiment une origine qui est si tordue. Non, c'est incroyable, c'est très bien aussi que d'avoir un président qui vient à la fois de nulle part et de partout, qui a une mélange qui se réjouit d'une mélange des races et de cultures très 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 complexe, mais à la fin c'est un être humain, c'est tout. Et donc je ne veux pas prendre les façons de parler d'un instituteur, mais d'une manière, ce que Jesse doit apprendre dans la trame du roman, c'est d'accepter qu'il n'est qu'un être humain et que ses origines ne comptent peut-être pas beaucoup. Enfin, parce que la leçon, à la fin, c'est qu'il ne peut pas savoir.
Oui. Ouais. Je me souviens justement, étant mon voyageur, il y a 4 ou 5 ans, il y avait des écrivains haïtiens et il était beaucoup question de la question des origines, justement. C'est une question qu'on leur posait souvent, et puis je sais plus, je crois que c'est Franck Etienne qui a dit, mais c'est quoi la question des origines et des racines? C'est pas ça qui compte. Oui, bien sûr, on a des racines, mais ce qui compte, c'est les branches, et les branches, elles s'élèvent... Et l'homme, il est fait pour bouger. Donc les racines, ça, on nous ramène sans arrêt à cette question-là, et ça nous plombe. Alors que la plupart des hommes, eux, ils cherchent à être déracinés d'une certaine manière et à pousser le plus loin possible les branches.
Mais après, ça donne du mal. Normalement, non, parce que c'est passé. Bon, un peu de temps à Paris, en 05, j'allais dans des colloques sur le Caraïbe assez souvent. Et donc, la grande différence des Haïtiens, j'ai vu des Noirs de Martinique et Guadeloupe. Et là, les racines étaient nettement coupées complètement.
Oui.
Donc, les racines africaines sont déchouquées, disons. Et ça, c'est assez douloureux pour ces gens. Ça a été clair. Dans les questions, dans les colloques, il y avait à présent des Haïtiens et les Martiniquais, les Guadeloupiens étaient là pour dire mais moi, je dois faire des recherches parce qu'ils n'en sont rien. Parce que l'abbé Grégoire a tellement réussi avec son projet de déraciner non seulement les Noirs, il a fait ça aussi dans la France. Et ça a fait une nation. Et donc c'est gracieux pour ces anciens colonies de faire partie de la nation française. Ils en tirent pas mal des bonnes choses. Voilà. Mais à la fois... le sens de qui on est vraiment était un peu détraqué. Voilà.
Oui.
C'est une question qui préoccupe tes personnages. Et là encore, Jesse, il cherche pas au départ à savoir qui il est, mais quand il se rend compte qu'il a peut-être une solution pour savoir qui il est, il va chercher. Il a cette curiosité-là et il a cette quête-là. Et c'est une question qu'on retrouve dans tes livres souvent. Est-ce que toi, c'est une question qui te préoccupe toi personnellement, en savoir le plus possible sur là d'où tu viens, qu'est-ce qui te constitue?
Quand je commence à penser comme ça, ça veut dire que je suis très déprimé. Oui, ça se passe de temps en temps, mais ouais. Si tout va bien, j'y pense pas du tout. Hein. Mm. C'est juste comme je suis pour l'instant, un personnage dans telle ou telle histoire. Non, je plaisante pas.
Ouais.
Je crois que ça, c'est peut-être une petite maladie psychologique unique à moi, mais non, mais c'est assez fréquent. Il y a des gens comme ça qui peuvent être des fois dangereux parce que ils marchent dans la vie quotidienne dans une rêve. Donc moi, parce que je vis beaucoup, j'ai toujours vécu dans mon imaginaire. Mm. Je suis comme ça. Donc c'est mon métier. Mais quand ça cloche de temps en temps avec l'âge surtout, oui je vois la déprime à ce point-là. Donc non, je ne me pose pas des questions comme ça.
il vaut mieux pas, si je comprends bien. Tout à l'heure, quand tu disais que tu as songé à arrêter complètement d'écrire de la fiction, tu penses vraiment que ça aurait été possible? Tu dis je vis dans l'imaginaire. J'ai l'impression que...
Non, mais j'étais si tellement vidé avec cet effort pour la trilogie. C'était juste la fatigue et un certain sens de n'avoir plus à dire. Non, après, bon, une quarantaine, je ne trouve pas le mot, mais peut-être 14 bouquins de telle ou telle qualité. La plupart des écrivains aux États-Unis, au moins après un, deux, peut-être trois ratés financièrement, c'est la fin. Hein. On passe dans une autre métier.
Oui.
Et donc j'ai eu beaucoup de la chance.
Parce que ça a marché.
Oui. Ouais.
Et là, il y a des livres en français qu'on ne connaît pas encore. Tu parles de 14 ouvrages. En France, on en a, je ne sais pas,
de 3, oui, 4, mais 5, c'est peut-être pas 8, le 9. Chiffre exact. Mais il y en a peut-être 5. Il y a deux recueils des nouvelles qui ne sont pas édites ici. On commence à parler de ça, mais... c'est pas possible pour Acte Sud de rattraper tous, donc il va peut-être être une collaboration avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais des nouvelles, je crois qu'il y a peut-être 5 romans, au moins 4, qui ne sont pas édités ici.
Et là, tu écris en ce moment.
Donc, qui sont assez bons.
Qu'on doit lire, donc, bientôt. Ouais. Le traducteur planche dessus. Et en ce moment, tu es en train d'écrire quelque chose?
Oui, comme d'habitude. Non, maintenant, je suis vraiment revenu dans le métier. Donc, j'ai quelque chose qui sort aux États-Unis pendant novembre. Et j'ai commencé une autre histoire. J'ai 40 pages d'une nouveau roman que je sais pas d'écrire du tout. Je suis pas 100% confiant que je sais l'achever, mais c'est très bizarre. Donc je peux pas dire plus que ça, mais jusque maintenant ça me plaît. Et puis j'ai quelque chose dans une tiroir. attendons ce moment, mais c'est achevé ça.
Si ça ressort du tiroir comme la balade de Jesse, ça vaut le coup d'attendre.
Le truc dans le tiroir, j'aime bien. C'est une ça raconte on se rappelle de Charles Manson. Et son petit cul qui a fait les meurtres et la terreur à Los Angeles fin des années 60. Donc J'ai une héroïne qui, bon, un personnage fictif, mais qui était théoriquement, bon, je dis pas Manson, mais une group of skills qui était très très rassemblant à l'époque. Mm. Et donc, au moment de 9 ans, elle se réjouit, oui, de cet événement, parce que dans l'esprit d'anciens terroristes, effectivement. Donc, et à la fois, elle voit sur la télé tous les trucs de télé qui se répétaient infiniment aux États-Unis pendant 3 mois. La même chose, l'explosion, la chute des tours. Chaque fois, c'était ridicule. Mais dans ces émissions très répétées, elle voit une ancienne copine de l'autre époque. Et donc, oui, ils vont se rencontrer, donc ça marche comme ça. Donc ça m'a beaucoup amusé. Mais c'est bizarre. C'est un roman avec un esprit 100% vénéneux. Je ne sais pas même comment j'étais capable de l'écrire, mais c'était vraiment comme j'étais possédé.
Ouais, encore une fois de plus.
Je trouve que c'est bon, mais c'est vicieux.
C'est vicieux. Et devenir complètement autre, y compris...
Non, mais c'est une expérience cathartique pour moi. Ouais. Donc, c'est ça que j'aime dans l'écriture. C'est,
oui,
un courant qui passe et qui vous nettoie un peu. Mmh. Avec ce passage,
je crois que c'est quelque chose qu'on peut souligner, qui est très important chez toi, effectivement, Madison.
Ouais. Ouais.
Tu parlais de métier, de revenir dans le métier. Peut-être qu'effectivement aux États-Unis il faut plus ou moins considérer ça comme un métier, mais toi tu en parles comme effectivement quelque chose de beaucoup plus passionnel et physique.
Ah, oui,
et cathartique.
Oui,
merci beaucoup, Madison.
Merci à vous, Pascal.
Une bonne fin de séjour à Saint-Malo.
Merci.
Et à la prochaine édition.
À la prochaine.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Voilà, c'est la fin de cette émission, un entretien avec l'écrivain américain Madison Smart Bell, enregistré à Saint-Malo fin mai 2009 au moment du festival Étonnant Voyageur. Vous retrouvez toutes les références sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org, d'ici quelques jours. En attendant la suite, je vous souhaite un bon été et de bonnes lectures.
Mirada de ciego, secreto desnudo.